dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce week-end. Ah non, ça commence.
Mais si, c'est formidable.
Donc on va vous expliquer en fait. On a reçu Marc Lavoine il y a un an, on s'est tapé un fou rire pendant très longtemps
et... C'est la mémoire du fou rire qui revient. Le fou rire a une mémoire, vous saviez ça? C'est très sérieux.
Visiblement. Je rappelle que aujourd'hui,
je vous embrasse, je sais qu'on est filmé. Bonjour madame,
voilà.
Monsieur, mademoiselle.
Avec les images sur francebleu.fr bien évidemment et sur Facebook. Son dernier album s'appelle Je reviens à toi et il est aussi avec nous aujourd'hui pour une série qui va débarquer bientôt sur France 2.
Oui,
déjà,
ça s'appelle Kepler avec un S.
Oui. C'est un thriller. Mmh. Ça se passe à Calais. En toile de fond, il y a les camps de réfugiés. Vous êtes flic et l'intrigue repose sur deux choses. D'un côté, l'identité d'un tueur. Et de l'autre, celle du flic Samuel Kepler qui a une multitude de facettes, plusieurs identités en fait. Ce flic, c'est vous. Et en fait, je pense qu'on peut dire que vous êtes taré.
Taré, non, pas taré.
Pourquoi
moi,
pas
perso,
taré
moi perso ou le personnage?
Non, bah, le personnage.
Ah, le
peut-être
personnage.
Vous, mais...
Non, le personnage n'est pas taré, il est malade, il a une maladie. Il y a eu un film là-dessus qui s'appelle Split avec McAvoy, où lui, il a 27 personnalités. Kepler n'a pas 27 personnalités, il n'en a que 3.
C'est inspiré aussi d'un personnage, d'une personne qui a existé, Billy
Exactement.
Milligan.
Tout à fait,
vous
c'est
connaissez
dont on parle, absolument.
Ouais, c'est un Américain qui a été arrêté pour au moins 3 viols et jugé non responsable de ses crimes.
Exactement.
À cause justement de son
c'est
trouble de la personnalité
de
multiple. Hein. Ouais, c'est pas le cas du personnage de la série. Pourquoi le réalisateur a choisi Calais avec justement la jungle, les exilés? Parce que je crois que vous voulez pas qu'on dise migrant. Vous n'aimez pas le terme de migrant.
J'aime pas trop le terme migrant.
Ouais.
Ce migrant, faudrait dire quelque chose de... Il y a un amalgame qui est fait sur ce terme qui ne me plaît pas beaucoup. Mm. Je pense que le terme légitime, c'est réfugié. C'est ce qui était le cas des boat people à l'époque qui fuyaient un pays en guerre. C'est le cas de beaucoup des Syriens, des Africains qui viennent en France, qui fuient un pays qui est sous les bombes. Migrant voudrait dire autre chose, notamment clandestin, ou etc. Et donc là, on pourrait quand même faire une petite différence, un distinguo des réalisateurs.
Ouais. Et pourquoi les réalisateurs...
Alors ça, c'est les auteurs qui ont dessiné ce script à travers la jungle de Calais, je pense, pour situer les choses. C'est vrai que c'est toujours intéressant, cinématographiquement, de travailler sur une histoire qui se passe ou bien pendant une guerre, par exemple la guerre d'Espagne ou une guerre civile. Les conflits génèrent souvent
des situations
intéressantes. Voilà.
L'ambiance de la série est assez pesante, il y a un côté très dark aussi, très dur. Il y a une scène où on vous voit souffrir intérieurement et pleurer comme un enfant. Pour retrouver ces émotions-là, vous dites qu'il suffit de retrouver en soi les événements qui vous ont bouleversé. Vous avez pensé à quoi pour être aussi habité par cette scène?
J'ai vraiment dit ça.
Ah, vous avez dit ça, ouais, tout à
ouais.
fait. Dans le dossier de presse en plus.
Non, mais je pense qu'on est tous chargés d'une forme de chagrin. Par pudeur, dans la vie courante, on ne se met pas à pleurer partout sur les épaules de tout le monde. C'est gênant. En revanche, au cinéma, et c'est vrai, au théâtre, je pense à un ensemble de choses. Il faut laisser, comme dans un buvard, l'encre monter. Vous voyez, vous trempez le buvard dans l'encre et l'encre monte tout doucement. C'est un peu pareil, vous trempez votre buvard, si j'ose dire, dans un liquide imaginaire qui vient vous teinter dans la masse du personnage que vous allez jouer.
Vous prenez des drôles d'images, hein?
Oui, j'essaye de trouver des images à peu près.
Je sais pas où vous êtes allé la chercher, celle-là,
à peu près adéquate, mais j'avoue que de temps en temps, elles sont tangentes. Je suis un adepte de l'image tangente.
Alors, qu'est-ce que les spectateurs, téléspectateurs vont aimer dans cette série, vont retrouver dans cette série, vous pensez?
Je pense qu'ils aimeront l'audace, la façon de tourner, l'histoire, le sentiment qui prédomine dans mon personnage, c'est quelqu'un de vulnérable. Et c'est ce qui fait qu'il nous ressemble.
Kepler, c'est sur France 2, les lundis soirs à 21h, au casting aussi Sophia et Saïdi. On peut rappeler donc aussi l'album Je reviens à toi. Et le concert aussi à Paris, ça le Playel.
Tout à fait.
Le...
Je ne sais pas.
Non.
Mais au mois de décembre.
Bah oui, mais vous ne savez pas.
Tout à fait, non.
Le 18, c'est ce que vous alliez dire.
Absolument, je l'avais sur le bout de la langue. Entre temps, je pars en festival quand je fais.
Oui, vous faites pas mal de festivals cet été.
Ouais, ouais. La France des fesses, la France des tis. La France des vals, la France des festivals. Voilà, c'est ce que je vais faire tout cet été.
Bon, Marc Lavoine, on va démarrer notre voyage dans le temps. Vous
avec
connaissez,
joie.
Vous appuyez juste là. C'est parti.
C'est parti. C'est la trouille. Hein.
6 août 1962, vous naissez à Longjumeau dans l'Essonne. Votre père Lucien, syndicaliste et communiste, travaille au PTT. Votre mère Micheline est secrétaire. Chez vous, c'est titanique. Ça sombre de partout. Vous quittez donc le domicile familial à 14 ans. Vous dites que c'était pour sauver votre peau.
Oui, je voyais bien que mes parents s'entendaient plus très bien depuis longtemps. Ma mère m'a poussé à partir.
Jeune?
Oui, jeune. Oui, jeune. Je suis parti vers 15 ans.
14, 15 ans, oui. C'est super jeune. Comment on fait quand on quitte les parents
époque,
à cette...
hein. C'est une autre
ouais,
époque.
Ouais, mais même.
Non, c'est l'époque des. Vous savez, c'est l'époque du punk. Hein. On a du travail. On n'a pas encore le sida. On a du chômage qui n'existe pratiquement pas. Enfin, un petit peu. Donc, on trouve du boulot.
Mais pourquoi vous dites que c'était pour sauver votre peau si vous êtes parti?
Parce que
c'est comme s'il y avait un danger derrière quelque chose.
Il y a toujours un danger. Moi, j'aime l'incertitude. Je venais d'un monde où j'étais très enfermé sur moi. J'étais pas bien dans ma peau. Je parlais peu. Je basculais de devant en arrière. Et j'étais un peu maltraité comme ça par ma forme. Donc, j'aimais pas trop ma forme. Et j'ai trouvé mon voyage, moi, dans la poésie. C'est là que je suis parti. C'est là que j'ai commencé à vivre, hein, à respirer vraiment. Je me suis toujours gardé d'aller dans le monde réel et dans le monde des adultes. Et je suis toujours resté dans ce monde-là, le monde de la poésie. De la mélancolie bleue, rose. J'aime bien ne pas appartenir tout à fait au monde, quoi.
Justement, la poésie, on la retrouve dans votre dernier album. Et on va s'écouter un extrait dès maintenant. Seul
si
définitivement,
vous
ça vous dit?
Ah, mais oui.
Et en plus, on a la classe. On est avec Marc Lavoine aujourd'hui sur France Bleu. On revient dans un instant pour la suite dans le rétro. Seul définitivement, troisième extrait de l'album de Marc Lavoine. Je reviens à toi, Marc Lavoine, notre invité dans le rétro.
Dans le rétro.
Dans le rétro. Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va se télétransporter à nouveau. Marc Lavoine, c'est parti. ...1979, vous allez ouvrir cette porte. Nous sommes à l'Olympia. Vous êtes là, en train de placer les gens qui viennent au spectacle. Vous êtes ouvreur.
Ouais.
C'est quoi vos envies à l'époque et c'est quoi vos craintes ?
J'ai aucune crainte, moi. Je n'ai pas de crainte.
Jamais.
Bon, j'ai peur de la mort, comme tout le monde, une sorte de lieu commun. Je n'ai jamais eu de crainte. J'ai quitté l'école à 15 ans en sachant que j'allais faire du théâtre. J'ai pas attendu qu'on me donne des rôles pour être comédien, ni qu'on me passe à la radio pour être chanteur, ou pour qu'on publie mes livres pour être auteur. J'ai toujours écrit. La seule crainte que je pourrais avoir, c'est éventuellement de ne plus avoir assez d'encre dans mon stylo, mais...
Ça se recharge.
Et puis, il y a là, on écrit avec sa tête, on écrit avec son cœur. Donc, non, j'ai pas eu de crainte, jamais. Mais j'ai été très bien accompagné aussi, hein. J'ai eu de très bons amis, j'ai rencontré de très bonnes personnes.
Et c'est quoi ça? C'est la chance? C'est la chance? C'est le destin? C'est vous qui le provoquez?
On a un peu de chance dans la vie. Mais si on a de la chance et qu'on reste assis sur son canapé, la chance vous passe devant et puis elle vous sert à rien. Je crois que c'est comme l'inspiration, la chance. Il faut aller la chercher, il faut la désirer, il faut travailler. Moi, je n'ai jamais arrêté de travailler. Et je n'arrêterai jamais. Je passe ma vie, je suis un peu un hyperactif, on me le reproche souvent, mais je passe ma vie à travailler. C'est impossible de ne pas écrire quelque chose.
Au détriment de la vie de famille, alors? Non, mais on doit vous reprocher,
c'est
ça
possible,
aussi.
Ouais, c'est possible, mais sûrement, bien sûr.
Ouais.
Oui, je dois être un immense égoïste du travail. Je m'épanouis dans mon travail. J'ai la chance d'en avoir un. J'ai la chance aussi d'avoir des enfants. Mais oui, c'est vrai que le concept d'une vie de famille qui séparerait les planches, les pages d'écriture, la photographie, la peinture, la musique, le théâtre, qui mettrait ça de côté pour mettre à la place ou diviser en deux, d'un côté la vie avec un canapé, avec des murs normaux, avec des souvenirs sur les murs, tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de bosser, de rencontrer le plus possible d'artistes, de gens qui sont des chirurgiens, des architectes, là je suis sur des projets d'ouvrir des choses avec des gens. Et artiste aujourd'hui, faire l'artiste aujourd'hui, ce que fait Trintignant, ce que font certaines personnes, c'est vraiment... refuser le monde de la bourgeoisie.
À l'époque de l'Olympia, vous rencontrez aussi à ce moment-là la fille de Bruno Cocatrix, qui dirigeait donc justement l'Olympia. Elle vous conseillera de contacter le compositeur Fabrice Aboulker. Mm-hmm. C'est avec lui que vous enregistrerez votre premier 45 tours. Mm-hmm. Suivront d'autres titres devenus des succès.
Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Qu'est-ce que t'es belle. Quand tu doutes comme ça. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd mon amour. Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours?
Marc Lavoine, les yeux revolver. C'est pourquoi c'est
non, mais quand j'écoute les chansons, je vois des visages. Le parking des anges, par exemple, je me souviens très bien. On a enregistré avec le Philharmonique de Londres, le Royal Philharmonic Orchestra, et qu'il y a un archer qui a glissé pendant l'enregistrement. Donc, t'entends, Le truc fait ça. Et c'est sur l'Aldisque. Le mec, il se plante, il s'endort, il doit s'endormir une minute, ou je sais pas, il a une crotte de nez, un truc qui gêne, un prout, il fait un rien. Et l'archer glisse. C'est ça, la vie aussi. C'est ça qui est beau, de pouvoir garder quelques anomalies dans les disques.
Mais c'est souvent le cas dans vos disques. De c'est ce que vous expliquez.
Non, pas souvent.
J'espère pas.
Non. Toi,
non, mais des
fautes. Ah, pardon.
Non, mais je sais plus quel titre c'était, tellement si belle.
Oui, mais ça, c'est.
Il y avait une faute d'orthographe. Oui, mais c'était pour appeler.
Volontaire, c'est
ça. Mais voilà. Mais c'était pour justement nous attirer l'oreille en quelque sorte aussi.
Il faut justement assez bien écouter les gens qui vous entourent. Certains vous disent, vas-y, c'est bon. Ou d'autres vous disent, non, ne fais pas ça, ça ne marchera jamais. On me l'a dit pour plein de chansons. Et notamment sur celle-ci, on m'a dit, il y a une faute d'orthographe. Tu devrais la corriger, ça ne marchera pas. Donc si vous voulez, c'est bien d'écouter aussi son cœur. De mettre, oui, des impuretés littéraires, c'est important.
En parlant de Prout, justement...
Oui, dites-moi tout.
Vous connaissez la parodie « Elle a les yeux camembert ».
Oui, alors regarde, le renard qui pue.
Ah non, moi c'était pas ça, moi c'était « Elle a les yeux camembert, elle a le regard qui pue, elle a pété la première ».
Ah oui.
Je l'ai senti, c'est foutu.
Mon père disait toujours « Femme qui pète n'est pas morte ». C'est vrai, il ajoutait « Regarde ta mère ».
Non mais vous... Non mais vous connaissiez cette
phrase
version
de Rousseau, hein, je vous le signale. Écoutez, je connaissais la version des Charlots. C'est un acte de générosité de parodier quelqu'un. Ouais.
Marc Lavoine, on a l'impression que vous êtes un grand romantique avec une sensibilité à fleur de peau parfois, mais faites pas cette tête, c'est pas vrai.
Ça dépend du romantisme dont on parle.
Ouais. Comment vous êtes-vous dans la vie alors?
Je suis.
Non mais c'est vrai. On vous imagine vraiment fleur bleue, romantique, doux.
Non, je suis quelqu'un de gentil. Ouais. Mais bon, je peux m'énerver, je peux piquer des petites crises. Hein.
Vous êtes blagueur aussi. Hein.
Très.
J'aime les contrepétries en ce moment, c'est votre truc.
Oui, j'aime beaucoup ça.
Allez, une petite comme ça.
Salut Fred.
Qui donne ?
Phallus Fred.
Voilà. Allez, une deuxième. Allez.
Non,
on était un peu sérieux au début de cette émission.
Un truc comme ça, avec des contrepétries ?
Ouais.
Bah, les canicules m'emballent.
Les canicules m'emballent.
Les cannibales.
Bébé, bébé,
voilà.
Bip.
Vous vouliez des contrepétries, n'est-ce pas? Excusez-moi, chères auditrices, chers auditeurs.
On découvre aussi d'autres facettes de votre personnalité au cinéma. Un mec sympa, drôle, un bon pote. Le cinéma fait autant partie de votre vie que la chanson. Il y a la télé aussi en ce moment avec la série Kepler sur France 2. Le lundi, on revient dans un instant sur France Bleu. Il est sur France 2 dans la série Kepler tous les lundis 21h et il est avec nous sur France Bleu, c'est Marc Lavoine.
Oui.
Vous avez envie de rire.
Oui, j'ai envie de rire, c'est drôle. Hein.
C'est parce que vous êtes heureux sur France Bleu.
Je suis heureux tout à fait, mais je suis heureux aussi tout court,
ouais.
C'est vrai. C'est rare, alors faut en être conscient et puis faut dire merci la vie.
Dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro. Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Marc Lavoine, c'est la musique, mais c'est aussi le cinéma et la télé. Là, aujourd'hui, il y a la série Kepler. Oui, si vous l'avez pas compris, parce que je viens de le dire, mais je le répète.
Mais c'est bien de le dire.
Oui, oui.
C'est bien.
Mais à vos débuts, il y a eu la série Pause Café avec Véronique Jeannot. Ça a été un de vos premiers boulots en tant que comédien.
Mm-hmm.
Vous avez tourné pour Claude Chabrol ensuite, Élie Chouraqui, Marc Esposito pour Le Cœur des Hommes. Ouais. À partir de quel film, vous en avez tourné, je crois, une trentaine, vous avez senti que le cinéma et le public vous considéraient comme un acteur?
C'est pas à partir de quel film.
Ah
c'est
ouais
quels films m'ont donné la sensation de faire du cinéma.
Et alors,
c'est
lequel?
Bah, c'est les films avec les cinéastes et avec des grands comédiens aussi. Trintignant est un grand comédien.
Oui, mais
quand
ça, parce
êtes...
que ça flatte l'ego aussi,
non,
ça
tout.
Donne
non,
une
non.
certaine assurance.
Non.
On se dit, punaise, je tourne quand même aux côtés
non,
des meilleurs ou pour les meilleurs.
Quand il y a un grand comédien, un grand cinéaste, une grande histoire, ça peut faire un bon film. Voilà. Je vous disais, on a essayé de me contredire sur de chanter avec un tel ou de faire avec une telle, de pas faire ci, de pas faire ça, de faire plutôt ça, d'être plutôt dans le rang, de se mettre plutôt, voilà, d'être plutôt comme les autres ou alors vraiment différent des autres. Pourquoi avoir une volonté d'être comme les autres ou différents des autres? Soyons nous-mêmes.
On va allumer l'autoradio, Marc Lavoine.
Les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux.
Daniel Guichard, mon vieux, vous avez écrit un livre pour raconter l'histoire de votre père, L'homme qui ment, c'est votre histoire aussi. Le livre a super bien marché, vous avez décidé de passer à la réalisation, d'adapter le bouquin au cinéma. Vous aviez pris du retard la dernière fois qu'on s'était vu, il vous manquait des morceaux pour rentrer dans le film de manière apaisée.
Exactement, et j'ai compris ce que c'était, donc j'ai revu ma copie. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un film du milieu. Il y a les grands films, ceux qui prennent beaucoup d'argent. Il y a les films du milieu où il y a moins d'argent, mais il y en a déjà trop. Donc si vous êtes angoissé parce qu'il y a beaucoup d'argent, vous n'êtes pas à l'aise. Et puis il y a les petits films.
Films du milieu, c'était votre cas.
Et moi, je n'étais pas d'accord avec ce système-là. Et donc, je me suis dit que ce qui me plaisait au fond, c'est de faire un film à petit budget.
Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une pression derrière et que vous ne vous sentiez pas prêt.
La pression ne me dérange pas. Ce non, que je veux, c'est si j'ai la pression, au moins que j'ai les moyens de le faire.
Et il y a toujours Benoît Magimel sur le coup pour votre père.
Pour l'instant, il n'y a plus rien. Il y a juste, un scénario que je suis en train de retravailler pour pouvoir le réaliser en 2 ou 3 millions d'euros.
Voilà. Parce que ça fait un moment que vous êtes sur ce projet.
Mais oui, mais je ne laisse pas tomber. Je le ferai, comme j'ai fait mon livre. C'est-à-dire que je veux que ça marche. J'ai pas envie de faire un film pour qu'il soit dans une boîte vue par personne. Et puis,
pas le but.
Voilà. Il y en a plein de films que je vois passer. Je me demande quand est-ce qu'il est sorti, quand est-ce qu'il est rentré. Puis on se retrouve dans le monde du cinéma. Moi, le monde du cinéma ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est faire des films avec des acteurs. Je voudrais faire ce film comme j'ai fait mon roman, c'est-à-dire pour que ça touche les gens.
Voilà, mais pour que ça touche les gens et qu'il soit vu, en général, il faut trouver quand même des acteurs avec une certaine notoriété. Qui demandent aussi du pognon derrière. Non, pas forcément.
Vous savez, ça dépend. Moi, j'ai fait des films pour zéro. Film de Tony Gatliff, par exemple, je l'ai fait pour rien parce que le sujet, c'était la déportation des Tziganes. Il y a parfois des sujets plus grands que nous. Nous, on parle des mouvements sociaux, de la guerre d'Algérie, d'une famille de travailleurs qui ressemble à toutes les familles de travailleurs que je peux croiser en France quand je bosse et quand je les croise, quoi. Et non, je pense qu'on peut trouver des moyens de faire du cinéma aujourd'hui.
On va ouvrir le pare-soleil, Marc Lavoine.
Absolument. Allez-y. Oh, les chevaux. Ils sont pas sauvages, mais ils sont beaux.
Bah si, c'est des chevaux sauvages.
Disons que ceux-là sont des chevaux libres. Un cheval sauvage naît dans le monde sauvage. Eux, ils sont nés en captivité, puis on les a relâchés.
Merci Google, comme quoi, hein. On tape chevaux sauvages sur Google et c'est pas les bons.
C'est pas la faute de Google, c'est qu'il y en a plus. C'est tout.
C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a plus de chevaux sauvages sur Terre. Votre maman craignait la disparition de ses chevaux. Après avoir écrit sur votre père, vous écrivez sur votre mère. Mm-hmm. Pourquoi vous attendez qu'ils ne soient plus là pour écrire sur eux?
Ça se fait bêtement, hein, vous savez. On ne choisit pas ça. Je crois que quand ils étaient là, on ne sent pas la nécessité de raconter ce que des parents vous ont appris. Je le ressens aujourd'hui parce que plus j'avance, plus je vois des parents. Vous savez, j'ai une association, une fondation, je vais voir des gens, je suis allé à Angers là, il y a 10 jours pour remettre un cartable connecté à un jeune garçon, et deux jeunes, une petite fille et un petit garçon les avaient eu l'année d'avant, ils ont pu repasser en classe supérieure, ils se sont sortis de leur cancer. Quand je vois ces gens, je me dis, tiens, leurs parents ressemblent aux miens. Je me dis, c'est pas mal d'écrire sur ces gens, qui sont parents, qui s'occupent de leurs enfants, qui parfois font des sacrifices. Et qui sont des gens bien.
Donc la prochaine fois, vous viendrez soit pour un film, soit pour un livre.
Je viendrai pour un film, un livre, une pièce.
Voilà, vous viendrez pour tout ça, quoi.
Pour tout ce que vous voulez.
Merci Marc Lavoine.
C'est moi qui vous remercie.
Kepler, c'est la nouvelle série du lundi soir sur France 2. Comme vous avez parlé en même temps que moi, je vais le redire. Kepler.
Kepler.
Une intrigue assez prenante, un polar à la fois sociétal et psychologique à voir absolument. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous rappelle que le replay de cette émission est dispo sur francebleu.fr. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, salut.
Merci beaucoup.